Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval, bien sûr. Une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie. Alors, on va partir pour une chevauchée radiophonique de 25 minutes. Et pour commencer, on va prendre le cheval au mot, et aujourd'hui, ce sera le mot pommeau. Alors, quelle est la cavalière ou le cavalier qui n'a pas entendu au cours de ses premiers mois d'apprentissage de l'équitation, son instructrice ou son instructeur lui donner l'indication suivante. Prends tes rênes dans la main droite, ton pommeau dans la main gauche, tire tes fesses vers l'avant de la selle et laisse descendre tes jambes. Alors, pommeau n'a pas pour origine, comme on pourrait le penser, le mot paume, hein, l'intérieur de la main, creux de la main, on peut dire. En fait, pommeau dérive de pomum, latin pomum, qui désigne le fruit comestible d'un arbre. Puis, au 5e siècle, le fruit du seul pommier, la pomme. D'abord, c'est n'importe quel fruit comestible, hein, et ensuite, ça se spécialise uniquement dans le fruit du pommier. On le voit écrit sous la forme pommel, au début du 11e siècle, puis pommio, un siècle plus tard. Moi, je trouve ça formidable, l'évolution des mots et des accents. À cette époque, il signifiait alors la boule fixée à l'extrémité de la poignée d'une épée, donc on n'est plus du tout dans le fruit, ou encore celle qui protégeait le sommet d'un casque de soldat. On nommait également de ce nom la partie creuse du chandelier dans laquelle est fixée la bougie, mais je pense qu'on le dit toujours encore actuellement, effectivement, on met la bougie dans le pommeau du chandelier. Mais alors aussi, un ornement en forme de boule placé sur un tombeau, sur une tente ou sur le toit d'une habitation, sorte de décoration. Il faut attendre le milieu du XIIe siècle pour voir le mot pommeau désigner la partie arrondie qui constitue l'avant de l'arçon de la selle. Donc c'est quand même relativement récent. Et dès le milieu du XIXe siècle, on nommera ainsi la boule de bois dur ou de plomb située à l'extrémité supérieure d'une canne qui transformer cet instrument en arme de défense. Effectivement, se prendre un coup de pommeau de canne sur la tête, généralement, on était calmé. Mais on va revenir quand même à des choses plus pacifiques, à l'équitation. Il n'y a bien sûr aucune honte à utiliser le pommeau de sa selle en cas d'urgence, effectivement, parce qu'il y a toujours cette image, oui, le débutant, il est cramponné à son pommeau, et puis le grand matador, lui, il l'utilise jamais, ce qui est faux. Parce qu'en effet, quand la situation devient chaude, hein, quand un mouvement imprévu du cheval menace l'équilibre de celui qui le monte, de son cavalier, de sa cavalière, le pommeau reste parfois la dernière bouée de sauvetage à laquelle le cavalier, même le plus expérimenté à recours. Providentiel donc, petite pomme que l'on a grippe pour se rétablir sur sa selle et se retrouver en sécurité, bien assis sur le derrière de son derrière et les jambes bien descendues, on dirait que le pommeau nous met à l'abri, le pommeau pomme peut-être, à l'abri du moindre pépin. Alors, on va de nouveau repartir en Amérique du Nord. Le cheval, on le sait, a été réintroduit par les Espagnols au cours du XVIe siècle, donc sur le continent américain, et il est dans un premier temps considéré par les populations autochtones comme un simple gibier. Donc on le chasse, mais pas plus. Mais ces mêmes populations ne mettront pas longtemps à comprendre tout le profit qu'elles peuvent tirer de la domestication de ces chevaux rustiques, intelligents, sobres et endurants. Alors on sait que ces chevaux, en fait, les Espagnols avaient importé des chevaux espagnols, donc, c'est-à-dire des descendants des races barbes. Et il faut dire que les Romains, déjà à leur époque, importaient énormément, au cours de leur conquête, énormément de chevaux qui venaient d'Afrique du Nord, puisque le cheval barbe est endémique, un cheval endémique d'Afrique du Nord. Alors jusque-là, leur économie de ces braves indiens, on va dire amérindiens, reposait en grande partie sur la chasse et sur l'agriculture. C'était en fait des sociétés de paysans chasseurs, et dès lors, pour beaucoup de tribus, la possession du cheval va transformer radicalement leur mode de vie. Et là, c'est vrai que ça va faire pas mal bouger les choses. Alors le cheval va également contribuer à modifier leur organisation sociale et leurs croyances religieuses. C'est ainsi que l'animal symbolisera les quatre points cardinaux. Alors on va les citer. Le nord sera représenté par des chevaux blancs, ça on comprend, la neige. Le sud par des alezans, l'est par des baies et l'ouest par des animaux de robe noire. Et ce sont eux qui maintiennent l'unité du monde, symbolisée par un cercle. Et le cercle, c'est aussi le tipi, l'habitation circulaire. Et elle permet aux vivants d'accéder au monde des ancêtres, là où résident les esprits de tout ce qui existe. Les animaux, les plantes, les rivières, les lacs, les montagnes possèdent un esprit que les Indiens du nord de l'Amérique ont résumé sous le terme « l'esprit du monde ». C'est-à-dire que rien n'est inerte. Toute chose qui existe sur la Terre a un esprit. Alors les westerns ont popularisé l'idée que les Indiens n'aimaient monter leurs chevaux qu'à cru. Ouais. Dans la réalité, ils préféraient nettement disposer d'une selle, ces braves Indiens, souvent troqués aux colons européens, ou parfois même ils allaient les voler un petit peu quand ils en avaient l'occasion. Alors dans le même temps, ils se mirent à fabriquer leur propre selle, dont les caractéristiques étaient copiées sur celles des vaqueros mexicains et californiens. En fait, c'était les selles qu'ils avaient devant les yeux, donc ils ont essayé d'en bricoler sur ce modèle-là. Alors la selle indienne avait un pommeau, on y retourne, et un trousquin, c'est-à-dire c'est l'arrière, quoi, c'est la petite butée à l'arrière qu'on a derrière ses fesses, donc un trousquin très élevé en forme de V renversé et fortement recourbé. L'arçon était souvent en bois. On en trouvait également fabriqué avec des cornes de cerf ou d'élan, autrement dit, ils bricolaient vraiment avec ce qu'ils trouvaient, donc avec les moyens du bord. Et si les Indiens appréciaient les selles des vaqueros, ils évitaient de se servir des étriers. Ah ouais, ça les étriers, ils n'aimaient pas trop. Pourquoi ? Parce que l'équitation qu'ils pratiquaient à la chasse comme à la guerre était une équitation de voltige, et ils craignaient en cas de chute, ça vraiment, ça leur fichait la pétoche, d'avoir le pied resté coincé dans l'étrier et d'être traîné par le cheval. Alors pour diriger son cheval, le cavalier indien utilisait soit ses genoux, hein, c'est quelque chose qu'on ne fait plus tellement maintenant, soit avait recours à des tapes du plat de la main d'un côté ou de l'autre de l'encolure de sa monture. Et ça, c'était pas les seuls à le faire, puisque dans l'Antiquité, les chevaux étaient, puisqu'ils ne connaissaient pas le mort de bouche, donc étaient souvent menés par des tapes sur l'encolure. Donc je te tape sur l'encolure droite pour tourner à gauche et sur l'encolure gauche pour la partie gauche de l'encolure pour tourner à droite. Alors le cheval des Indiens était enraîné au moyen d'une bride lasso qui était une longue corde en cuir tressé de 5 à 6 mètres de haut. Alors là, on va rigoler un petit peu. Cette bride lasso enserrait la mâchoire inférieure de l'animal et n'était utilisée que pour stopper le cheval. C'était le frein. Le cavalier laissait traîner à terre l'extrémité de cette corde, ce qui lui permettait de récupérer plus facilement sa monture en cas de chute. Et c'était une sage précaution quand on sait que l'Indien tombait assez régulièrement. C'était un cavalier qui se cassait régulièrement la gueule. La raison en était qu'il montait souvent des chevaux peu ou pas dressés. Et pour en terminer avec ce festival de gamelles, un adage militaire français affirmait que ce n'était qu'après la 100e chute que l'on devenait bon cavalier. À cette aune, force est de reconnaître que l'Indien était bien meilleur cavalier que nous, parce qu'il se cassait davantage la gueule que les militaires français. Alors, lors des déplacements assez fréquents de ces cavaliers nomades, les chevaux étaient équipés de travois. Alors, les travois, qu'est-ce que c'est ? Ce sont deux longues perches liées à l'une de leurs extrémités à la selle, les deux autres extrémités traînant sur le sol derrière le cheval. Et on sait que les Indiens ignoraient la roue à l'époque, et donc ils utilisaient cet appareil simple et très vite fabriqué, en coupe deux branches d'arbres, des branches relativement fines, et puis on les attache. Donc, et ils transportaient leur matériel, mais également les jeunes enfants ou les personnes âgées, malades ou blessées. On va s'accorder maintenant une pause musicale avec Nolwenn Leroy, la jument de Michau.
J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le
Tous les cavaliers connaissent le dicton « pas de pied, pas de cheval ». C'est vrai que le pied du cheval a de quoi nous étonner, qu'on imagine. Un cheval de selle pèse en moyenne entre une demi-tonne et 700-750 kilos. Et tout ce poids repose sur les quelques dizaines de centimètres carrés de chacun des quatre sabots de l'animal. C'est-à-dire que bon, c'est une grosse bête avec des petits pieds. Alors pour les zoologues, le cheval, comme ses cousins l'âne ou le zèbre, est un mammifère ongulé, solipède, ce qui signifie que chacun de ses pieds possède un seul sabot massif et non fendu. Bon, évidemment, l'inverse des vaches, des bœufs, des moutons, des chèvres, etc. À y regarder vite, l'extérieur du sabot du cheval semble être d'un seul tenant. Effectivement, on voit un gros truc, on essaye de ne pas se faire marcher sur le pied, enfin, c'est à peu près tout ce qu'on voit. Et en réalité, il se compose de quatre parties bien distinctes. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vocabulaire hippologique, je m'en excuse par avance, auprès de nos auditeurs. Alors, en haut, on va aller du haut jusqu'en bas du sabot, on a une mince bande de cornes molles qui assure la croissance du sabot. C'est elle qui fait croître le sabot et on appelle ça le bourrelet périoplique. Vient ensuite la paroi, encore appelée la muraille, une sorte de boîte épaisse et solide qui renferme les organes internes du pied de l'animal. Voilà. Et si l'on soulève ce pied, en faisant attention, et si le cheval est gentil et accepte, on découvre la sole d'une épaisseur de 5 à 10 mm, donc c'est vraiment pas épais, qui est un organe souple qui se relève et se baisse un peu à la façon d'une pompe. Et alors c'est intéressant parce que cette pompe contribue à aider le sang à remonter vers le cœur de l'animal, parce que le cheval, son problème, c'est que ben le sang, il descend facilement, mais pour remonter, c'est une grosse bête, c'est une bête haute et il faut que ça remonte jusqu'en haut. Donc il y a ces petites pompes là comme ça au bout des pieds qui permettent de booster le sang un peu pour qu'il remonte. Et enfin, situé à l'arrière du sabot, se trouve... Quelle heure il est ? Eh ben, ah non, on a déjà mangé. Bon, ben, ça, elle s'appelle la fourchette, et qui, en s'écartant et en se refermant, donne au sabot la souplesse indispensable à la marche et lui permet de s'adapter à pratiquement tous les types de terrains. Et c'est vrai que le cheval a été un animal, et est toujours un animal, qu'on trouve absolument partout. C'est-à-dire, c'est un, peut être un animal du désert, un animal de la steppe, un animal des grasses prairies aveyronnaises, par exemple. Enfin, on le trouve partout, et il s'adapte très bien. Alors maintenant, on va être très méchant, on va ouvrir ce sabot. Là, on a pris une grande scie, le messager du cheval a pris une grande scie, et on va regarder un peu plus près ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, on découvre une merveille de technologie. En particulier, alors on va commencer par les petits os, du haut vers le bas, trois os principaux, donc l'os de la couronne en haut, l'os du pied au milieu, et l'os naviculaire qui est en bas et qui du reste est un os enfin qui peut donner dans certains cas au cheval une maladie qu'on appelle la maladie naviculaire et qui est vraiment, alors là c'est le chien-dent parce que c'est très 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 difficile à soigner et le cheval boite parce qu'il a mal, c'est une inflammation, et généralement ça arrête la carrière d'un cheval, quoi. Malgré des ferrures très compliquées, ça, le cheval est très très mal barré. Alors donc l'os de la couronne assure la liaison entre le paturon, donc le haut, et les deux premiers os. Son rôle est primordial puisque c'est à sa surface que glisse l'ensemble des tendons qui permettent la mobilité du pied, c'est-à-dire que tout le câblage passe par là. L'os du pied, qui a la forme du sabot, alors tout à fait pareil, correspond à la troisième phalange de notre majeur à nous. Donc on peut imaginer, voilà, c'est la troisième phalange. Il est poreux et percé de multiples trous par lesquels passent de très nombreux vaisseaux sanguins ainsi que tout un réseau de nerfs. Donc l'un, c'est les poulies, et l'autre, disons, c'est un petit peu plus le réseau internet, quoi, ou le réseau téléphonique. Voilà, l'impulsion nerveuse passe par là. Et enfin, l'os naviculaire, dont j'ai dit un mot à l'instant, qui concourt à former par sa face antérieure l'articulation du pied et par sa face postérieure une sorte de poulie de renvoi du muscle, et qui permet cette poulie au pied de se fléchir. Donc on comprend qu'avec tout ce matériel, le cheval soit d'une habileté extraordinaire. Et on lui a donné donc le nom de naviculaire. Pourquoi ? Parce que cet os a une forme qui évoque la navette d'un métier à tisser, c'est-à-dire qui va et qui vient pour tisser une pièce de tissu, voilà ce qu'on veut. Voilà, alors nous le savons toutes et tous, le cheval est un danseur. Mais à la différence d'une danseuse étoile, ou voilà, qui se tient sur la pointe des pieds le temps d'un spectacle, le cheval lui fait des pointes de sa naissance à sa mort. Et oui, le cheval fait des pointes de sa naissance à sa mort, soit parce qu'il marche sur la pointe des pieds, naturellement, soit une bonne quarantaine d'années, donc faire les pointes pendant 40 ans quand même, et cela quasiment 24 heures sur 24. Parce qu'il faut savoir que un poulain se couche, un très vieux cheval ou un cheval malade se couche, mais un cheval, pendant sa vie, ne se couche pas, il reste toujours debout. Alors quelques petits dispositifs supplémentaires lui sont donc nécessaires pour arriver à relever ce défi-là. Et donc ces trois os que nous venons de décrire sont soutenus par une masse de cartilage fibreux qui est essentielle pour assurer l'élasticité du pied. Voilà, il n'a pas des plaques en fonte sous les pieds, il a vraiment quelque chose de très élastique. Et ces cartilages qui sont situés latéralement à l'os du pied et au coussinet plantaire ont aussi pour fonction d'amortir les chocs, un peu comme le font les danseuses qui mettre du coton dans leur ballerine. C'est pour ça qu'un cheval peut, par exemple, sauter et se recevoir sans se faire mal aux pieds. Voilà, même avec un cavalier sur le dos. Et il ne faut en effet pas croire que le cheval porte à ses pieds quatre espèces de gros croquenots insensibles et comme taillés dans un bloc de bois brut. C'est extrêmement sensible, le pied d'un cheval. Au seul toucher, on sait qu'un cheval sait, comprend, même si on lui bande les yeux ou s'il est aveugle, il sait s'il se trouve sur un terrain sec, un terrain humide ou froid ou chaud. Impossible de le tromper, ça. Alors là, on a beau lui raconter n'importe quoi, il dira mon œil. C'est encore dans l'eau qu'il nous étonne le plus. Alors là, ça, c'est formidable. Au simple splash, là, quand son sabot tombe sur une surface d'eau, il s'est estimé avec précision la profondeur de l'eau. Et si au cours d'une rando, par exemple, vous devez traverser une rivière ou comme en Camargue un étang dont vous ne voyez pas le fond, alors là, franchement, vous posez les rênes, vous vous mettez bien tranquillement et vous les laissez faire en deux ou trois mouvements. Le cheval repérera un guet praticable et vous mènera tranquillement sur l'autre rive. Alors ça, c'est plutôt rassurant, effectivement. Là, ça marche à tous les coups. Alors le cheval, on le sait, dort rarement couché. Ses sabots restent en permanence en contact avec le sol sa vie durant et subissent de ce fait une usure incessante. Comme nos ongles, leur croissance est continue. En fait, la paroi du sabot est formée de trois couches superposées qui sont produites par trois organes différents. Donc on les a vus, le bourrelet périoplique, le bourrelet dit principal et un tissu particulier d'aspect huileux dont le rôle consiste à coller solidement entre elles ces trois couches. C'est-à-dire les trois couches sont en fait collées les unes sur les autres. Et une fois produite, la corne s'accroît par la superposition donc de ces couches qui recouvrent les couches plus anciennes. Donc c'est comme ça que le sabot, malgré l'usure, continue à se reproduire. Et en fait, en chassant donc progressivement les anciennes couches vers la partie inférieure du sabot, elles finissent par disparaître par usure et ce processus est permanent. En revanche, il est plus ou moins rapide selon les races de chevaux et dépend également de facteurs tels que la nourriture, l'exercice, la nature du terrain et bien évidemment l'état de santé de chaque animal. Ça compte énormément. Et sur ce dernier point, le cheval est logé à la même enseigne que nous. En bonne santé, son poil est brillant et sa corne pousse régulièrement. Dans le cas contraire, et cela doit alerter, il présente un poil terne et l'on voit apparaître sur ses sabots des cercles concentriques qui indiquent que quelque chose ne va pas. Et ça, ce sont franchement des signes à ne pas négliger. Alors, chez les chevaux dits de sang, la corne se régénérera plus rapidement que celle des chevaux, enfin les races qui sont plus lymphatiques. Et c'est ainsi que si pour les chevaux de pur sang arabe, hein, ceux qui font les courses ou les chevaux barbes, le renouvellement total du sabot se fait en 5 ou 6 mois, il faut bien compter 1 à 2 mois de plus pour les chevaux de demi-sang, c'est-à-dire plus lymphatiques. Alors, la corne, donc cette matière solide, on observe que dans la nature, quand un cheval marche, grosso modo, quand on le laisse faire, il fait entre 30 et 40 km par jour. Et à ce rythme, l'usure de ses sabots est compensée par leur repousse. En revanche, exposée à l'humidité, elle se ramollit et gonfle. Et donc attention au cheval qui stationne longtemps dans un pré humide ou sur une litière qui évacue mal l'urine. Et c'est la raison pour laquelle le messager du cheval regrette de voir encore trop souvent des chevaux qui ne quittent pas leur box de la semaine et ne sortent dans le meilleur cas qu'une heure ou deux le week-end. Et là, ça pose vraiment des problèmes pour le cheval. Enfin, pour les néophytes qui assistent pour la première fois au travail d'un maréchal ferrant et sont un peu inquiets de voir le fer chauffer à rouge être posé directement sur le sabot du cheval, le tout dans des tourbillons de fumée à l'odeur âcre, pas de panique, ils n'ont pas affaire à un ride barbare. Il faut en effet savoir que la corne du sabot des chevaux conduit très peu la chaleur, elle est très 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 peu conductrice. Et en fait, il faudrait appliquer le fer brûlant pendant plus d'une minute sur le sabot de l'animal pour que celui-ci commence à sentir la douleur, évidemment on fait jamais ça. Et dans la réalité, l'application du fer chaud dure une dizaine de secondes environ, et si l'on voit le cheval parfois s'agiter, ce n'est pas parce qu'il a mal, sans s'y laisse prendre, mais parce que la présence et l'odeur de la fumée l'incommode. Là, il a un peu la pétoche, sauf s'il est très très habitué. Même remarque pour les clous spéciaux qui servent à fixer les fers aux sabots. L'art du maréchal, qui ne l'oublions pas, est quand même un professionnel très expérimenté, consiste à fixer ces clous parallèlement à la paroi du sabot, donc en se glissant comme ça, sans causer le moindre dégât. Et là encore, si notre ami à crinière s'agite parfois un peu, c'est qu'il en a simplement marre de rester avec l'une ou l'autre patte en l'air, on le comprend un peu à la manière des danseuses de French Cancan. En fait, il aimerait bien changer de position, ou alors son horloge interne lui indique que c'est bientôt l'heure de bouffer. N'oublions jamais qu'un cheval a toujours de bonnes raisons de faire ce qu'il fait. À nous de savoir l'écouter et tâcher de comprendre ce qu'il veut nous dire, c'est aussi cela l'équitation. Alors on va rester dans les papates, et le dicton du jour, c'est pas de pied, pas de cheval. Nous arrivons au terme de cette émission. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez, 107.9. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur CFM Villefranche-de-Rouergue, 90.2. Vous pouvez réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le messager du cheval. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles et bien sûr, un grand bravo à nos chevaux. Ciao, ciao.